Alexandre Pouchkine, Eugène Onéguine, chapitre 1er. Dès qu'il tombe sérieusement malade, mon oncle professe les principes les plus moraux. Il a pu se faire estimer sans pouvoir inventer rien de mieux. Son exemple est une leçon. Mais, grand Dieu, quel ennui de rester nuit et jour auprès d'un malade sans le quitter d'un seul pas. Quelle basse perfidie que d'amuser un moribond, d'arranger ses coussins, de lui présenter avec recueillement ses remèdes, de pousser le gros soupir en même temps que l'on pense à part soi. Oh, quand donc le diable emportera-t-il ? Ainsi se disait, entraîné par des chevaux de poste, dans les flots de poussière, un jeune étourdi que les arrêts de Jupiter destinaient à devenir l'héritier de tous ses parents. Ami de Ruslan et Ludmila, permettez que, sans plus de préambule, je vous fasse faire la connaissance du héros de mon roman. Onéguine, mon camarade, est né sur les bords de la Neva, ou peut-être aussi vous êtes né, ou bien vous avez brillé, lecteur. Moi aussi je m'y suis promené, mais le climat du Nord me semble nuisible. Ayant servi d'une façon exemplaire, le père d'Onéguine ne vivait que de dettes. Il donnait 3 grands bals chaque hiver, et il finit par se ruiner. Mais le destin veillait sur son fils Eugène. Dans son enfance, une madame prit soin de lui, puis un monsieur la remplaça. Ce monsieur, pauvre abbé français, pour ne point tourmenter l'enfant, lui apprit tout en plaisanterie. Il ne l'ennuyait point d'une morale trop sévère, le grondait doucement de ses fredaines et le menait promener au jardin d'été. Quand vint pour Onéguine l'époque des orages de la jeunesse, des espérances immodérées et des tendres rêveries, M. l'abbé fut congédié. Voilà mon Onéguine, libre comme l'air, les cheveux coupés à la dernière mode, habillé comme un dandy de Londres, il fit dans le monde son entrée. Il parlait et écrivait fort bien le français, dansait correctement la mazurka et saluait avec grâce. Que faut-il de plus ? Le monde décida qu'il était charmant et plein d'esprit. Nous avons tous, par petites bribes, appris fort peu de choses et fort mal, de sorte qu'il n'est pas difficile, grâce à Dieu, de briller chez nous par l'éducation. Onéguine était, de par la décision d'une foule de juges compétents et sévères, un garçon plein de science mais pédant. Il avait le retalent de tout effleurer dans une conversation, de garder le silence avec l'air profond d'un connaisseur dans une discussion sérieuse et d'exciter le sourire des dames par un feu roulant d'épigrammes inattendues. Le latin est passé de mode aujourd'hui. Aussi, à vrai dire, savait-il juste assez de latin pour déchiffrer une épigraphe, pour donner son opinion sur Juvénal, pour mettre « valé » à la fin d'une lettre, et dans les grandes occasions pour citer, non sans faute, 2 vers de l'Énéide. Il n'avait aucun goût pour fouiller la poussière chronologique des légendes humaines, mais toutes les anecdotes des temps passés, depuis Romulus jusqu'à nos jours, était gravé dans sa mémoire. N'ayant jamais eu la passion étrange d'user sa vie à la recherche de vains sons, il ne put jamais, malgré tous nos efforts, distinguer un dactyle d'un spondé. Il se moquait d'Homère, de Théocrite, mais en revanche, il prisait fort Adam Smith. Il était un profond économiste, c'est-à-dire qu'il savait raisonner sur les causes de la richesse d'un État et dire comment cet État subsiste et pourquoi il n'a nul besoin d'or quand il a des produits naturels. Son père ne put jamais le comprendre et continua à engager ses biens. Inutile d'ajouter tout ce que savait encore Onéguine. Mais en quoi il avait un vrai génie, ce qu'il savait mieux que toute autre science, ce qui avait été pour lui, dès sa jeunesse, un travail, un tourment, une jouissance, Ce qui occupait du matin au soir sa paresse inquiète, c'était la science de la tendre passion qu'elle chantait au vide, et pour laquelle il dut finir dans les souffrances sa vie brillante et orageuse, exilé en Thrace au fond des steppes désertes, loin de sa chère Italie. Ah, comme il savait feindre, cacher son espérance, montrer de la jalousie, faire croire et faire cesser de croire, prendre l'air sombre et désespéré, paraître tantôt fier et tantôt docile, plein d'attention, plein d'indifférence. Comme il savait garder un silence langoureux ou développer une éloquence enflammée. Comme il savait donner une heureuse négligence aux effusions de cœur de ses lettres. Comme il savait n'avoir qu'une pensée, qu'un but, s'oublier lui-même. Comme son regard rapide ou tendre, timide ou hardi, savait à l'occasion se voiler d'une larme obéissante. Ah oui, il savait paraître toujours nouveau, étonner l'innocence par une lointaine allusion, l'effrayer par un désespoir de commande, l'amuser par une aimable flatterie. Il savait saisir l'instant de l'émotion, vaincre par le raisonnement ou la passion les préjugés de l'adolescence, attendre la première faveur involontaire, supplier puis arracher l'aveu, appeler, faire répondre le premier accent du cœur, s'obstiner dans sa poursuite, obtenir enfin une entrevue secrète et triompher par la solitude et le mystère. Il avait su de bonne heure émouvoir même le cœur des coquettes de profession. La médisance la plus acérée était à ses ordres, quand il fallait annuler des rivaux et les faire tomber dans ses filets. Mais vous, heureux mari, vous restiez toujours ses amis. Tous le caressaient, et le rusé disciple de Faublas, le vieillard soupçonneux, et le majestueux trompé, toujours content de lui-même, de son dîner et de sa femme. Il est encore au lit que déjà on lui apporte des billets. Qu'est-ce ? Des invitations, précisément, dans 3 maisons. Il est prié pour la soirée. Là, un bal, ici une fête d'enfants. Où ira-t-il ? Par où commencera-t-il ? Eh bien, il ira partout. Cela décidé, en toilette du matin, un large bolivar sur la tête, Onegin part pour le boulevard de l'Amirauté et s'y promène nonchalamment jusqu'à ce que sa vigilante montre de Breguet et marque l'heure du dîner. Alexandre Pouchkine, Eugène Onegin, chapitre 1er. Dès qu'il tombe sérieusement malade, mon oncle professe les principes les plus moraux. Il a pu se faire estimer sans pouvoir inventer rien de mieux. Son exemple est une leçon. Mais, grand Dieu, quel ennui de rester nuit et jour auprès d'un malade sans le quitter d'un seul pas. Quelle basse perfidie que d'amuser un moribond, d'arranger ses coussins, de lui présenter avec recueillement ses remèdes, de pousser le gros soupir en même temps que l'on pense à part soi. Oh, quand donc le diable emportera-t-il ? Ainsi se disait, entraîné par des chevaux de poste, dans les flots de poussière, un jeune étourdi que les arrêts de Jupiter destinaient à devenir l'héritier de tous ses parents. Ami de Ruslan et Ludmila, permettez que, sans plus de préambule, je vous fasse faire la connaissance du héros de mon roman. Onegin, mon camarade, est né sur les bords de la Neva, ou peut-être aussi vous êtes né, ou bien vous avez brillé, lecteur. Moi aussi je m'y suis promené, mais le climat du Nord me semble nuisible. Ayant servi d'une façon exemplaire, le père d'Onegin ne vivait que de dettes. Il donnait 3 grands bals chaque hiver, et il finit par se ruiner. Mais le destin veillait sur son fils Eugène. Dans son enfance, une madame prit soin de lui, puis un monsieur la remplaça. Ce monsieur, pauvre abbé français, pour ne point tourmenter l'enfant, lui apprit tout en plaisanterie. il ne l'ennuyait point d'une morale trop sévère, le grondait doucement de ses fredaines et le menait promener au jardin d'été. Quand vint pour Onéguin l'époque des orages de la jeunesse, des espérances immodérées et des tendres rêveries, M. l'abbé fut congédié. Voilà mon Onéguin, libre comme l'air, les cheveux coupés à la dernière mode, habillé comme un dandy de Londres, il fit dans le monde son entrée. Il parlait et écrivait fort bien le français, dansait correctement la mazurka et saluait avec grâce. Que faut-il de plus ? Le monde décida qu'il était charmant et plein d'esprit. Nous avons tous, par petites bribes, appris fort peu de choses et fort mal, de sorte qu'il n'est pas difficile, grâce à Dieu, de briller chez nous par l'éducation. Onéguin était, de par la décision d'une foule de juges compétents et sévères, un garçon plein de science mais pédant. Il avait l'heureux talent de tout effleurer dans une conversation, de garder le silence avec l'air profond d'un connaisseur dans une discussion sérieuse et d'exciter le sourire des dames par un feu roulant d'épigrammes inattendues. Le latin est passé de mode aujourd'hui. Aussi, à vrai dire, savait-il juste assez de latin pour déchiffrer une épigraphe, pour donner son opinion sur Juvénal, pour mettre « valé » à la fin d'une lettre, et dans les grandes occasions pour citer, non sans faute, deux vers de l'Énéide. Il n'avait aucun goût pour fouiller la poussière chronologique des légendes humaines, mais toutes les anecdotes des temps passés, depuis Romulus jusqu'à nos jours, étaient gravées dans sa mémoire. N'ayant jamais eu la passion étrange d'user sa vie à la recherche de Vincent, il ne put jamais, malgré tous nos efforts, distinguer un dactyle d'un spondé. Il se moquait d'Homère, de Théocrite, mais en revanche, il prisait fort Adam Smith. Il était un profond économiste, c'est-à-dire qu'il savait raisonner sur les causes de la richesse d'un État et dire comment cet État subsiste et pourquoi il n'a nul besoin d'or quand il a des produits naturels. Son père ne put jamais le comprendre et continua à engager ses biens. Inutile d'ajouter tout ce que savait encore Onéguin. Mais en quoi il avait un vrai génie, ce qu'il savait mieux que toute autre science, ce qui avait été pour lui, dès sa jeunesse, un travail, un tourment, une jouissance, ce qui occupait du matin au soir sa paresse inquiète, c'était la science de la tendre passion qu'a chantée Ovid, et pour laquelle il dut finir dans les souffrances sa vie brillante et orageuse, exilé en Thrace au fond des steppes désertes, loin de sa chère Italie. Ah, comme il savait feindre, cacher son espérance, montrer de la jalousie, faire croire et faire cesser de croire, prendre l'air sombre et désespéré, paraître tantôt fier et tantôt docile, plein d'attention, plein d'indifférence. Comme il savait garder un silence langoureux ou développer une éloquence enflammée. Comme il savait donner une heureuse négligence aux effusions de cœur de ses lettres. Comme il savait n'avoir qu'une pensée, qu'un but, s'oublier lui-même. Comme son regard rapide ou tendre, timide ou hardi, savait à l'occasion se voiler d'une larme obéissante. Ah oui, il savait paraître toujours nouveau, étonner l'innocence par une lointaine allusion, l'effrayer par un désespoir de commande, l'amuser par une aimable flatterie. Il savait saisir l'instant de l'émotion, vaincre par le raisonnement ou la passion les préjugés de l'adolescence, attendre la première faveur involontaire, supplier, puis arracher l'aveu, appeler, faire répondre le premier accent du cœur, s'obstiner dans sa poursuite, obtenir enfin une entrevue secrète et triompher par la solitude et le mystère. Il avait su de bonne heure émouvoir même le cœur des coquettes de profession. La médisance la plus acérée était à ses ordres, quand il fallait annuler des rivaux et les faire tomber dans ses filets. Mais vous, heureux mari, vous restiez toujours ses amis. Tous le caressaient, et le rusé disciple de Faublas, le vieillard soupçonneux, et le majestueux trompé, toujours content de lui-même, de son dîner et de sa femme. Il est encore au lit que déjà on lui apporte des billets. Qu'est-ce ? Des invitations, précisément, dans trois maisons, il est prié pour la soirée. Là, un bal, ici une fête d'enfants. Où ira-t-il ? Par où commencera-t-il ? Eh bien, il ira partout. Cela décidé, en toilette du matin, un large bolivar sur la tête, Onéguine part pour le boulevard de l'Amirauté et s'y promène nonchalamment jusqu'à ce que sa vigilante montre de Breguet ait marqué l'heure du dîner. Alexandre Pouchkine, Eugène Onéguine, chapitre 1er. Dès qu'il tombe sérieusement malade, mon oncle professe les principes les plus moraux. Il a pu se faire estimer sans pouvoir inventer rien de mieux. Son exemple est une leçon. Mais, grand Dieu, quel ennui de rester nuit et jour auprès d'un malade sans le quitter d'un seul pas. Quelle basse perfidie que d'amuser un moribond, d'arranger ses coussins, de lui présenter avec recueillement ses remèdes, de pousser le gros soupir en même temps que l'on pense à part soi. Oh, quand donc le diable emportera-t-il ? Ainsi se disait, entraîné par des chevaux de poste, dans les flots de poussière, un jeune étourdi que les arrêts de Jupiter destinaient à devenir l'héritier de tous ses parents. Ami de Ruslan et Ludmila, permettez que, sans plus de préambule, je vous fasse faire la connaissance du héros de mon roman. Onéguine, mon camarade, est né sur les bords de la Neva, ou peut-être aussi vous êtes né, ou bien vous avez brillé, lecteur. Moi aussi je m'y suis promené, mais le climat du Nord me semble nuisible. Ayant servi d'une façon exemplaire, le père d'Onéguine ne vivait que de dettes. Il donnait trois grands bals chaque hiver, et il finit par se ruiner. Mais le destin veillait sur son fils Eugène. Dans son enfance, une madame prit soin de lui, puis un monsieur la remplaça. Ce monsieur, pauvre abbé français, pour ne point tourmenter l'enfant, lui apprit tout en plaisanterie. Il ne l'ennuyait point d'une morale trop sévère, le grondait doucement de ses fredaines et le menait promener au jardin d'été. Quand vint pour Onéguine l'époque des orages de la jeunesse, des espérances immodérées et des tendres rêveries, M. l'abbé fut congédié. Voilà mon Onéguine, libre comme l'air, les cheveux coupés à la dernière mode, habillé comme un dandy de Londres, il fit dans le monde son entrée. Il parlait et écrivait fort bien le français, dansait correctement la mazurka et saluait avec grâce. Que faut-il de plus ? Le monde décida qu'il était charmant et plein d'esprit. Nous avons tous, par petites bribes, appris fort peu de choses et fort mal, de sorte qu'il n'est pas difficile, grâce à Dieu, de briller chez nous par l'éducation. Onéguine était, de par la décision d'une foule de juges compétents et sévères, un garçon plein de science mais pédant. Il avait le retalent de tout effleurer dans une conversation, de garder le silence avec l'air profond d'un connaisseur dans une discussion sérieuse et d'exciter le sourire des dames par un feu roulant d'épigrammes inattendus. Le latin est passé de mode aujourd'hui. Aussi, à vrai dire, savait-il juste assez de latin pour déchiffrer une épigraphe, pour donner son opinion sur Juvénal, pour mettre « valet » à la fin d'une lettre, et dans les grandes occasions pour citer, non sans faute, deux vers de l'Énéide. Il n'avait aucun goût pour fouiller la poussière chronologique des légendes humaines, mais toutes les anecdotes des temps passés, depuis Romulus jusqu'à nos jours, était gravé dans sa mémoire. N'ayant jamais eu la passion étrange d'user sa vie à la recherche de vains sons, il ne put jamais, malgré tous nos efforts, distinguer un dactyle d'un spondée. Il se moquait d'Homère, de Théocrite, mais en revanche, il prisait fort Adam Smith. Il était un profond économiste, c'est-à-dire qu'il savait raisonner sur les causes de la richesse d'un État et dire comment cet État subsiste et pourquoi il n'a nul besoin d'or quand il a des produits naturels. Son père ne put jamais le comprendre et continua à engager ses biens. Inutile d'ajouter tout ce que savait encore Onéguin. Mais en quoi il avait un vrai génie, ce qu'il savait mieux que toute autre science, ce qui avait été pour lui, dès sa jeunesse, un travail, un tourment, une jouissance, ce qui occupait du matin au soir sa paresse inquiète, c'était la science de la tendre passion qu'a chantée Ovide, et pour laquelle il dut finir dans les souffrances sa vie brillante et orageuse, exilé en Thrace au fond des steppes désertes, loin de sa chère Italie. Ah, comme il savait feindre, cacher son espérance, montrer de la jalousie, faire croire et faire cesser de croire, prendre l'air sombre et désespéré, paraître tantôt fier et tantôt docile, plein d'attention, plein d'indifférence. Comme il savait garder un silence langoureux ou développer une éloquence enflammée, comme il savait donner une heureuse négligence aux effusions de cœur de ses lettres, comme il savait n'avoir qu'une pensée, qu'un but, s'oublier lui-même, comme son regard rapide ou tendre, timide ou hardi, savait à l'occasion se voiler d'une larme obéissante. Ah oui, il savait paraître toujours nouveau, étonner l'innocence par une lointaine allusion, l'effrayer par un désespoir de commande, l'amuser par une aimable flatterie. Il savait saisir l'instant de l'émotion, vaincre par le raisonnement ou la passion les préjugés de l'adolescence, attendre la première faveur involontaire, supplier puis arracher l'aveu, appeler, faire répondre le premier accent du cœur, s'obstiner dans sa poursuite, obtenir enfin une entrevue secrète et triompher par la solitude et le mystère. Il avait su de bonne heure émouvoir même le cœur des coquettes de profession. La médisance la plus acérée était à ses ordres, quand il fallait annuler des rivaux et les faire tomber dans ses filets. Mais vous, heureux mari, vous restiez toujours ses amis. Tous le caressaient, et le rusé disciple de Faublas, le vieillard soupçonneux, et le majestueux trompé, toujours content de lui-même, de son dîner et de sa femme. Il est encore au lit que déjà on lui apporte des billets. Qu'est-ce ? Des invitations, précisément, dans trois maisons, il est prié pour la soirée. Là, un bal, ici une fête d'enfants. Où ira-t-il ? Par où commencera-t-il ? Eh bien, il ira partout. Cela décidé, en toilette du matin, un large bolivar sur la tête, Onéguin part pour le boulevard de l'Amirauté et s'y promène nonchalamment jusqu'à ce que sa vigilante montre de Breguet ait marqué l'heure du dîner.